continuer le cheminement à travers les incertitudes. Après, s'être focalisé sur les aspects climat, les aspects mathématiques aussi plus fondamentaux. On va poursuivre sur l'aspect un modèle d'impact avec deux illustrations. Une sur les écosystèmes avec Paul Hedley et une sur l'hydrologie avec Florence Abbès. Donc, on va commencer par Paul Hedley de l'Université Paris 11 qui va nous faire un point sur l'incertitude dans les modèles d'impact pour des écosystèmes.
Donc, merci Sylvie et Claude de m'avoir invité. C'était en regardant présentation que j'ai préparée pour aujourd'hui, que j'ai réalisée, que j'ai donné une présentation qui était assez semblante en 2007 à Tours pour les journées de l'IFB. Et avec ça, j'ai pu mesurer un peu la distance qu'une scientifique a parcourue depuis 5 ans. Et je pense que c'est assez intéressant de faire un peu un état de où on est en termes de réflexion sur des incertitudes. Donc, il y a 5 ans, je pense que les communautés qui travaillent sur les impacts, surtout les communautés qui travaillent sur les impacts de changement climatique sur la biodiversité, étaient peu sensibilisées, peu sensibles aux questions d'incertitude. Je me souviens même d'une conversation avec l'un des développeurs de modèle qui s'appelle Image, qui m'a dit un jour, on ne veut pas avoir trop d'incertitudes montrées dans nos graphiques. Si on fait ça, les décideurs ne vont rien comprendre et ils ne vont pas nous voir. Donc, c'était quand même une demande qui était assez importante pour cette communauté de commencer à réfléchir par rapport aux incertitudes. C'est juste un petit diagramme pour vous montrer rapidement comment je vais traiter les incertitudes. Donc, très rapidement, c'était probablement déjà montré, mais des incertitudes liées avec les scénarios de développement socio-économique, des incertitudes qui sont liées avec des facteurs qui pilotent directement les impacts sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, comme des modèles de changement climatique, et après des incertitudes liées avec des modèles, des impacts sur la biodiversité et des impacts sur les écosystèmes, soit leur fonctionnement, soit les services écosystémiques. Et donc je vais essayer de décliner des incertitudes que je ne vais pas expliciter pour des scénarios socio-économiques ni pour le changement climatique. Apparemment, au moins ces deux parties étaient traitées ce matin. Je vais me focaliser sur les impacts sur les écosystèmes. Et on a toute une série de raisons de penser qu'il y a des fortes incertitudes liées avec les modèles d'impact. Donc, d'abord, un manque de compréhension de fonctionnement des écosystèmes, des problèmes de traduction de ce qu'on sait vers des modèles, les formulations mathématiques, les paramétrisations, les choix des indicateurs, les surprises et des boucles de rétroaction. Donc je vais essayer de toucher très brièvement sur chacun de ces points dans quelques exemples que je vais utiliser. Et je vais explorer 3 façons d'essayer d'étudier et quantifier, comprendre des incertitudes dans les modèles d'impact. Il y a plein de façons de le faire. Je vais me focaliser sur des méthodes de comparaison multimodèles, multiscénarios, sur la validation des modèles et sur des synthèses ou des expertises. En utilisant des exemples d'impact de changement climatique sur la biodiversité et sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, première série d'exemples sont des impacts de changement climatique sur la biodiversité. Et je pense que c'est une étude qui montre de façon peut-être la plus élégante l'importance de traitement d'incertitude et les origines d'incertitude quand on commence à regarder l'impact de changement climatique sur la biodiversité. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en utilisant des modèles correlatifs, des modèles de type niche, pour étudier l'impact du changement climatique sur les poissons en France. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné quatre scénarios socio-économiques allant des émissions de gaz à effet de serre un petit peu faibles vers les plus forts, trois modèles de changement climatique. Donc ça, c'est pas beaucoup, il y en a beaucoup plus que ça, donc on aurait pu étudier plus que ça. Et sept modèles d'impact sur des espèces. Donc, c'est des modèles qui sont tous de la même famille, donc c'est tous des modèles corrélatifs, mais ils sont tous avec des descriptions mathématiques et avec certaines hypothèses qui sont différentes. Et en plus, ce qui est important dans ce type de modèles corrélatifs, ce sont des données qui sont utilisées pour construire ces modèles. Et donc, après, ils ont calculé la variabilité quand on prend en compte toutes les incertitudes dans tous ces différents composants. Donc, 80 modèles tournés avec 100 sous-échantillons de données, donc 8400 réalisations de modèles. Donc, ça, d'abord, ça montre la complexité et la difficulté d'évaluer l'incertitude quand on travaille sur les modèles d'impact. Et la deuxième chose qui est peut-être le plus important, donc j'ai entendu que Laurent Terré vous avez déjà déprimé ce matin, donc je vais faire encore plus. Donc, si on regarde les scénarios socio-économiques, donc à 2020-2050, ils participent pour très peu dans la variabilité totale, un petit peu plus à plus long terme. Les modèles climat, surtout vers 2050, le choix de modèles climatiques aussi change pas mal, contribue pas mal à la variabilité, mais c'est surtout juste la différence de modèles de l'impact sur les espèces qui rajoute de loin le plus de variabilité. Donc en plus de la variabilité que vous avez vue ce matin, c'est l'un des sources le plus faible de la variabilité totale quand on regarde l'impact sur les espèces. Donc ça, c'est assez intéressant et il renforce cette idée que plus qu'on va loin dans la hiérarchie de cette façon de regarder les incertitudes, plus qu'on va cumuler les incertitudes et plus qu'on va avoir des difficultés d'avoir des résultats très nets. Donc ça, c'est une manière de regarder les incertitudes, c'est cette analyse de comparaison de différents scénarios socio-économiques, comparaison de différents modèles. Une autre façon de le faire est de regarder si les modèles sont capables à reproduire des données. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, la plupart des modèles de type niche, la plupart des modèles corrélatifs, il n'y avait qu'un seul modèle qui allait être utilisé. Maintenant, il y a un outil qui a été développé à Grenoble, en grande partie par Wilfried Tuillier, qui aide à faire ce qu'on appelle des prédictions d'ensemble, donc très proches des méthodes qui sont utilisées par les climatologues, pour réduire un peu les incertitudes dans les projections. Donc, cette méthode a été utilisée par exemple ici, de valider un modèle. Donc, ils ont pris des données de distribution des oiseaux en Grande-Bretagne, donc avec des distributions observées et prédites des années 70 et 20 ans plus tard. Et ce qu'on voit ici, c'est que première chose que vous ne voyez pas, c'est que si on prenait des modèles séparément, donc il y avait plusieurs modèles de type niche qui ont été utilisés, il n'y a aucun modèle qui était aussi performant que l'ensemble des modèles. Donc c'est assez intéressant, c'est plus ou moins la même chose qu'on trouve avec les climats. Pour plein de raisons, quand on fait un ensemble des modèles, ils marchent beaucoup mieux que des modèles pris individuellement. Deuxième chose qui est pour déprimant pour l'une des espèces, c'est que les projections futures ne correspondent en aucun cas à des distributions observées. Donc, il y a peut-être des choses qui confondent un petit peu cette comparaison, donc potentiellement les impacts d'utilisation de terre et d'autres, mais quand on compare beaucoup d'espèces d'oiseaux, il y a certaines espèces pour lesquelles les modèles marchent relativement bien, et pour certaines espèces où ça marche très mal. Et de même chose si on fait ce même genre de choses avec la distribution des arbres dans le passé, même lointaine. Certaines essences, les modèles de niche marchent relativement bien, et d'autres, ça marche très mal, pour des raisons qui ne sont pas entièrement connues, ou je dirais même en général pas compris. Donc ça, c'est à la fois positif, c'est-à-dire que pour certaines essences, certaines espèces, ces modèles marchent relativement bien, pour d'autres, ils marchent nettement moins bien. En tout cas, l'approche a pris énormément d'ampleur depuis 5 ans, même un petit peu plus, et ces modèles de niche sont utilisés très couramment, même dans les études d'adaptation. Donc ces types de modèles sont actuellement utilisés comme un outil à l'aide des décisions pour, par exemple, les créations de réseaux des aires protégées. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos systèmes d'aires protégées sont mieux adaptés au changement climatique prévu? Deuxième exemple, c'est un exemple dont on travaille depuis un petit moment, et donc vous avez probablement déjà vu certains d'entre vous ces travaux. Cet exemple est un exemple où on veut, et l'un de nos problèmes en termes d'impact est que la diversité des modèles est encore plus grande que les modèles de climat. Donc les modèles de climat ont tous plus ou moins la même base physique dedans. Des modèles d'impact sont souvent très différents. Ici, on passe des modèles de type niche, des modèles qui s'appellent Biomode et NBM sont des modèles de niche, sont des modèles correlatifs. Des modèles Castagna et LPG sont des modèles qui sont très mécanistes, qui décrivent la photosynthèse des arbres, leur respiration, leur croissance et autres, avec deux modèles qui sont d'une complexité intermédiaire. Et donc, on a utilisé pour essayer de modéliser les distributions actuelles de être, par exemple. Et donc, certains modèles marchent beaucoup mieux que d'autres, surtout des modèles corrélatifs marchent très bien, des modèles mécanistes un peu moins bien. Et après, on a prédit les distributions futures de ces essences en utilisant qu'une seule scénario de changement climatique qui est plutôt sec et que modérément chaud. Et ce qu'il montre, les zones rouges sont où les absences sont prédites, pas les absences, mais les climats défavorables sont prédits d'ici 2050. Les zones bleues sont les zones d'expansion potentielle de être, et les verts sont des régions où la distribution est prévue comme stable. Et ce qu'il montre ici, c'est qu'il y a une énorme diversité entre ces modèles, et ici au moins on comprend des mécanismes derrière ça. Il est extrêmement simple. Si on retire des effets de forte ténération atmosphérique de ces deux modèles mécanistes, donc le CO2 diminue l'impact négatif du changement climatique, ces prévisions ici par ces deux modèles deviennent presque identiques à des modèles correlatifs. Donc il n'y a presque pas de différence entre des modèles très mécanistes et des modèles correlatifs, sauf pour cet effet de CO2. Le problème étant qu'il n'y a presque aucune expérience sur les arbres adultes. Donc on ne sait pas si l'effet CO2 prédit par ces deux modèles protectrice de CO2 est correcte ou pas. Donc notre recommandation vers des gestionnaires, vers les forestiers, est que pour l'instant, on est dans une situation où on ne connaît pas l'avenir de être, et tout va dépendre en grande partie de l'impact de CO2 sur la croissance des arbres. Et avec une donc c'est là où l'expertise globalement, donc à la fois scientifique et des parties prenantes, et des gestionnaires jouent un rôle majeur. La plupart des scientifiques pensent que le fait de CO2 va être relativement important. Donc on a tendance à penser que l'impact va être moins grave qu'il est prédit par les modèles ELISH et plus proche de ces modèles-là. Donc peut-être moins négatif que dans ces deux modèles-là. Deuxième exemple de vous montrer quelque chose de positif, c'est-à-dire que ici on a fait le même exercice pour le pin sylvestre et vous voyez la même chose en vert des régions où la distribution est prédite d'être stable et en rouge les zones où le climat devient défavorable d'ici 2050. Et c'est un peu triste pour l'avenir de ce pin, mais au moins l'ensemble des modèles sont à peu près cohérents, c'est-à-dire qu'ils prédisent presque tous la disparition de pins sylvestres sur une bonne partie de le milieu nord de France, avec les grandes différences étant sur la partie nord-est de France. Donc là, on peut avoir un message qui est beaucoup plus clair vis-à-vis des gestionnaires et des décideurs. Il est important de dire aussi que notre confiance, notre mesure d'incertitude ne vient pas que des comparaisons de modèles entre eux, ça vient aussi des comparaisons des modèles avec des données. Donc ça, c'est des travaux d'Isabelle Schwinn sur un projet qui s'appelle Sion. Et là où elle a comparé les distributions connues d'êtres dans le passé par des records polémiques sur 10 000 ans. Et quand on introduit un taux de dispersion dans le modèle réaliste, on peut reproduire relativement bien la distribution passée d'êtres en fonction de changements climatiques passés. Et ces changements climatiques-là sont de même ordre, même nettement plus grands de ce qui est prévu pour le futur. Donc ça nous donne confiance qu'on est en mesure, au moins en partie, de reproduire la réponse de ces essences au changement climatique. Dernier commentaire, donc l'impact du changement climatique sur les extinctions des espèces était le grand chose qui était mis en avant quand j'ai préparé conférence pour Tours il y a 5 ans. C'était l'étude de Thomas et Tom de 2004 et le Millennium Assessment qui est sorti en 2005, qui était vraiment des publications phares sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Et récemment, nous avons fait, pour la Convention sur la diversité biologique, une étude de l'incertitude associée avec ces projections. Et ce qu'on voit est que en jaune, on voit l'impact du changement climatique sur les taux d'extinction. Donc ça, c'est les taux d'extinction actuels. Ça, c'est les taux d'extinction des mammifères passés. Et ça, c'est les taux d'extinction soit en jaune pour le changement climatique, soit en vert pour le changement d'utilisation de terre, soit en noir, les combinaisons de deux. Et ce qu'on voit est que le taux d'extinction prévu pour le futur varie quelque part entre plus bas qu'actuel à une perte de plus de 60% des espèces d'ici 2100. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce niveau d'incertitude? Notre message, qui n'était pas un message que finalement le CBD voulait entendre, est qu'on n'est pas en mesure de prédire avec beaucoup de confiance le taux d'extinction des espèces. Donc, ce qui était écrit dans le rapport de GIEC en 2007, qui était aussi très axé sur le taux d'extinction des espèces. Finalement, on a très très peu de confiance dans ces chiffres. Donc, et ça, c'est juste la partie chiffrage, comparaison de modèles pour essayer d'étudier l'incertitude. En fait, l'expertise derrière ça apporte aussi un éclairage sur l'incertitude et suggère que l'incertitude est encore beaucoup plus grande que ça. Donc, première chose, l'indice qui est utilisé, c'est le taux d'extinction potentiel. Donc, à un moment donné dans le futur, cette temps dans le futur est peu connu. Et deuxièmement, le taux d'extinction passé, surtout pour les plantes en face de changements climatiques, au moins pour la dernière million d'années, était extrêmement faible. Donc il y a peu d'évidence par le record fossile que des modifications du climat extrêmement importantes ont conduit à l'extinction des espèces. Donc en fait, on a très peu de confiance dans ces données parce que, à la fois, cette étude quantitative, mais aussi notre évaluation qualitative, et qu'il y a énormément d'incertitudes dans ces projections de taux d'extinction future. Ici, c'est juste un petit plan qu'on a sorti pour essayer de mettre d'identifier quelques sources d'incertitudes dans l'impact du changement climatique sur les biodiversités. Je vais juste souligner un seul qui est important, qui sont des points de basculement, c'est-à-dire qu'aucun de ces modèles prend en compte des points de basculement. Et je vais vous montrer un cas qui est extrêmement important d'un point de basculement, qui est l'effondrement, c'est un mot qui est extrêmement, peut-être trop important, mais la disparition d'une partie de la forêt amazonienne en face de changement climatique. Donc, s'il est pris en compte et si elle arrive, il peut avoir éventuellement des effets qui augmentent de façon très importante le taux d'extinction. Donc, deux exemples d'impact de changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, premier exemple vient exactement de cette région, donc de forêt amazonienne. Et en haut, vous avez trois modèles qui s'appellent le Dynamic Global Vegetation Models, qui ont essayé de reproduire des dynamiques de végétation en face de changement climatique. Et quand c'est rouge, il indique que le forêt, le biomasse ou le carbone stocké dans la forêt va diminuer très fortement. Quand il est vert, il indique que cette biomasse va augmenter, soit à cause de l'augmentation de la tolérance du CO2 atmosphérique, soit parce que les augmentations de la température ou les modifications de précipitations sont positives pour des arbres. Globalement, ce qu'il montre est que sur le bassin amazonien, il y a soit une stabilité, soit une diminution de la biomasse végétale. Et dans certains modèles, donc un modèle qui est très connu pour ça, le modèle développé en Angleterre, il y a une diminution très très forte de la biomasse végétale en Amazonie. Et ce que cette étude montre est qu'il y a assez peu d'accord sur cette disparition de forêt amazonienne. Avec certains modèles où cet effet est relativement atténué, et d'autres modèles, le modèle anglais, qui montre un effet extrêmement positif. Cette graphique ici est trop compliquée pour interpréter rapidement, mais globalement, les différentes couleurs montrent les impacts des différents facteurs environnementaux sur le stockage de carbone dans la végétation. Et comme vous voyez des couleurs différentes, ça montre aussi que c'est aussi des mécanismes qui diffèrent entre les différents modèles. Parce que les colonnes ne sont pas de même couleur. La seule chose qui est à peu près constante, c'est cet effet positif des fortes tolérances CO2 atmosphériques sur la croissance des arbres. Quelque chose qui est rarement fait, et je pense qu'il faut être très clair avec ça, le nombre de comparaisons entre les modèles et les données sont relativement rares, et ici on voit peut-être pourquoi. Non, ça c'est trop méchant. Donc ça c'est des données en forêt amazonienne où ils ont exclu une partie de la pluie et donc de créer des sécheresses artificielles sur les arbres. Et après, ils ont essayé d'utiliser ces trois modèles pour reproduire ce qui était observé dans les expériences. Et ces deux graphiques, donc deux sites différents, deux systèmes expérimentaux différents, et ils montrent très clairement que ni l'un ni l'autre est capable à reproduire l'impact de sécheresse. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sous-estiment probablement très fortement l'impact de sécheresse, et ils surestiment, et il y a d'autres raisons de penser ça, ils surestiment l'impact des fortes températures. Donc peut-être ça compense un petit peu, mais clairement il y a des problèmes avec ces modèles qu'il faut régler avant d'avoir une confiance très élevée dans leur capacité de prédire. Dernier dépôt sur des données, donc ça c'est une étude qui était pilotée par Nathalie Denoblet, et ça c'est dernière partie des grandes incertitudes, c'est que de très grande majorité des études ne prennent pas en compte les rétroactions entre les impacts et le retour vers le climat. Il n'y a presque aucune étude qui l'a fait. Bon, il y a de plus en plus, mais ils sont très rares. Cette étude a utilisé des modèles couplés climat-surface terrestre pour regarder l'impact de changement de l'utilisation de terre et le couvert végétal prédit par des modèles sur le climat. Donc, juste pour aller rapidement, en forêt, un impact sur le climat régional qui est très différent qu'un champ de maïs. Et si tu fais comme on a fait aux États-Unis, on couvre tout le Midwest avec des champs de maïs, c'est très différent que le fonctionnement en prairie ou en forêt qui était le couvert végétal naturel de cette région. Ce que cette étude montre, ce qui est assez intéressant, première chose, est que ça c'est juste les effets d'augmentation de gaz à effet de serre plus l'augmentation de la surface de la température des mers, donc un effet positif d'à peu près un demi-degré, un petit peu plus d'un demi-degré sur cette partie des États-Unis ou l'Amérique du Nord, mais avec un effet négatif de changement d'utilisation de terre ou de couvert végétal qui est à peu près l'équivalent. Donc le fait d'avoir rasé les forêts, de changer les prairies en champs de maïs ou champs de blé, a eu un effet qui a contrecarré le réchauffement climatique par les gaz à effet de serre. Et à peu près le même signal. Ce qui est un petit peu plus troublant est qu'il y a des énormes écarts entre les différents modèles. Donc ces écarts-là sont des écarts associés avec les différents modèles. Et ça, c'est parce qu'ils modélisent très différemment le couvert végétal, l'impact du changement climatique sur le couvert végétal, et surtout la répartition de l'énergie entre l'énergie sensible et l'énergie latente, c'est-à-dire l'énergie qui part dans la vapeur-transpiration, et qui pose des graves problèmes pour la prévision de l'impact de rétroaction de changement de couvert végétal sur le climat régional. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Donc, premier commentaire, tout ça, c'est des avancées majeures dans nos compréhensions d'incertitude. Donc, une compréhension mille fois mieux cinq ans après 2007, le GIEC de 2007, qu'on a beaucoup, beaucoup avancé. Donc, ça, c'est important. Mais clairement, on a aussi beaucoup de choses à faire. Donc, pour simplifier, globalement, il y a toujours cet énorme besoin de faire des comparaisons des modèles entre eux, et surtout de comparer des modèles qui sont assez divers, donc des modèles qui sont plutôt mécanistes et complexes, et des modèles qui sont plutôt phénoménologiques, hein, je ne devrais pas utiliser de type comparatif, avec des divers types d'observations, des observations, et des observations dans des manipulations expérimentales, et aussi l'utilisation de modèles de dynamique de population. Pour l'instant, on fait peu de ça. Ce que je vous ai montré dans tous ces exemples,
il n'y a pas de tonne dans la littérature. La littérature est toujours dominée par un seul modèle qui est utilisé peut-être avec une petite analyse de sensibilité, mais où l'incertitude est très peu prise en compte. Ces types de comparaisons peuvent vraiment nous aider d'abord à mieux comprendre d'où vient l'incertitude, éventuellement de corriger et surtout de le quantifier. Donc il y a toujours cet énorme besoin de faire, et la question est qui va le faire et comment. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la IPCC a extrêmement bien fonctionné avec les climatologues. Donc les climatologues ont passé beaucoup de temps et énorme travail à faire des estimations d'incertitude, d'essayer de comprendre d'où vient cette incertitude, des incertitudes. Par contre, pour tous les modèles d'impact, surtout l'impact sur la biodiversité, mais même pour les impacts sur le fonctionnement des écosystèmes, il y avait très peu de choses qui ont été organisées pour les évaluations de l'IPCC. Et ça se voit, je participe cette fois dans la rédaction de le chapitre sur l'impact sur les écosystèmes terrestres, et nous avons très très peu d'études qui nous renseignent sur les incertitudes des impacts de changement climatique sur des écosystèmes terrestres. Donc quelque part il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien que possible pour faire en sorte qu'il y a une communauté qui est bien structurée pour essayer d'analyser ces incertitudes. Donc ce qu'on espère est que il y aura un nouveau programme international de recherche qui va être mis en place, qui s'appelle Future Earth. Donc en principe il va être beaucoup mieux financé, et en plus ça va regrouper des quatre programmes, donc le programme sur la biodiversité, le programme sur les cycles biogéochimiques, le programme sur le climat et le programme sur les dimensions humaines, pour faire en sorte qu'il y a beaucoup plus d'interactions entre ces programmes, beaucoup plus de comparaisons de méthodologies, de connaissances, et on peut espérer que ça va alimenter beaucoup mieux des projets des programmes d'évaluation. Et de plus, on a un nouveau mécanisme qui s'appelle IPBES, qui est le nouveau mécanisme qui a été lancé cette année à Panama, donc qui va être créé concrètement en 2013, et en espérant qu'il va se focaliser un peu plus sur ces questions d'incertitude. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête le vrai travail qui est fait, et c'est pas le IPCC, ni IPBES, ni Future Earth qui financent de la recherche, et on a beaucoup de chance en France d'être relativement bien financé pour faire de la recherche en termes d'impact de changement climatique sur les écosystèmes, soit par le GIS Climat, soit par le GICC, pardon, soit par l'ANR. Donc, quelque part, il faut trouver une bonne façon de coordonner tous ces mécanismes de financement pour faire en sorte qu'on peut encore mieux faire nos analyses d'incertitude dans l'optique de non seulement mieux comprendre les impacts, mais aussi participer à la mise en place des programmes d'adaptation qui sont bien informés. Voilà, merci. J'ai oublié juste une petite anecdote. Je suis allé à la première évaluation sur la biodiversité qui s'appelait The Global Biodiversity Assessment. Sur 1000, ça c'était publié en 97, je crois. Il y avait un tiers d'une page sur 1000 pages. Il y avait un tiers d'une page sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Un tiers d'une page sur un document de 1000 pages. Donc, il faut mesurer les distances qu'on a parcourues en 15 ans depuis. Donc, parfois, on a l'impression qu'on est long, mais...
Quelques questions ?
Comment ça va ?
Oui, j'ai une question. Je voulais savoir, je suis un peu surprise de ne pas du tout voir pris en compte dans les incertitudes l'impact anthropique, parce que moi j'avais l'impression que c'était important, très important pour tout ce qui est biodiversité. Donc je voulais savoir si ça pouvait être pris en compte et comment c'était.
Donc, la réponse est, j'ai insisté sur le changement climatique pour les fins de l'exposé pour aujourd'hui. Donc, juste peut-être très rapidement, il est assez clair. Ah oui. Donc, ce qui est très clair, c'est que dans les modèles d'impact sur la biodiversité, c'est mode d'occupation de sol, destruction d'habitat et le changement climatique qui sont de loin le plus pris en compte, sauf dans la rivière, sur les écosystèmes terrestres, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est que ces deux impacts qui sont réellement pris en compte. Tout le reste, en termes de scénario, sont très peu pris en compte. Donc, il est clair que les espèces invasives, que la surexploitation dans certains endroits joue un rôle aussi majeur, mais pour l'instant, ils sont extrêmement peu pris en compte dans les modèles et les scénarios.
C'est un peu ma question, parce qu'il y a sur ce diagramme, en fait, certains, tu as du vert, donc c'est pris en compte dans certains scénarios. Voilà.
Et
tu
quand
peux
c'est noir,
un petit peu par rapport à cette question.
Donc, ce qui est assez intéressant, on avait très peu d'études où il y avait à la fois le changement climatique et l'utilisation de terres. En fait, il n'y a que deux où on pouvait le séparer concrètement. Mais il est assez intéressant dans ces deux cas, c'était le changement d'utilisation de terres qui dominait par rapport à l'impact de changement climatique. Mais, cela dit, parfois, l'impact de changement climatique prédit par certains modèles était nettement plus élevé que l'impact de changement d'utilisation de terres dans notre modèle. Donc, on conclut quand même qu'il est probable que le changement d'utilisation de terres va rester l'impact majoritaire, au moins d'ici 2050 et probablement encore plus loin.
Oui, un peu comme ma question ce matin, je trouve que autant il est difficile quand on travaille avec les acteurs des territoires, faire de l'adaptation, d'avoir recours à du downscaling de modèles de climat, autant sur cette question de la biodiversité, j'ai le sentiment qu'il y a une autre manière de prendre le problème qui donne un petit peu moins de flou et un peu moins d'incertitude. Au niveau local, on travaille sur le milieu côtier en particulier, en Bretagne, où il y a des aires, des frontières d'aires de distribution multiples. Les changements dans les communautés, les populations se voient avec des impacts très directs sur des usages. Et je me pose la question de quel est l'autre, je comprends bien ce dispositif scientifique, mais quel est l'autre dispositif scientifique qui pourrait, disons, instrumenter les territoires pour faire ces suivis appropriés sur des choses qu'on observe réellement, qui sont très, très concrètes.
Donc, il y en a beaucoup de dispositifs. Donc, certains sont de la science participative. Donc, il y a des mesures de phénologie des plantes, donc de voir quand il y a des dates de floraison. Et il y a toute une plateforme qui est montée au niveau national pour faire ça. Il y a des observations des insectes pollinisateurs. Il y aura certainement des impacts assez visibles sur les insectes pollinisateurs qui est piloté par le muséum. Il y a l'implication maintenant de plus en plus fort, surtout des parcs nationaux et de plus en plus des parcs régionaux et des conservatoires botaniques dans les systèmes d'observation de végétation pour essayer d'être en mesure de détecter des modifications de végétation ou de faune en fonction de changements climatiques. Et c'est surtout des parcs nationaux qui sont extrêmement sensibles à ça parce qu'ils le voient. Comme ils sont presque tous en haute montagne, ils voient déjà des premiers impacts très forts de changement climatique sur les écosystèmes. Et donc, il y a des collaborations, par exemple, très étroites entre les équipes à Grenoble et des parcs nationaux, des écrans et d'autres dans les Alpes.
Merci Paul. On va illustrer avec Florence sur la partie hydrologie et puis peut-être des points, des questions qui pourront être.